Bonjour et bienvenue, je suis Pascal Solière et c'est l'épisode 46 de ITcast du 30 juin 2017. Aujourd'hui avec Maxime, nous faisons un grand tour de l'actualité puisqu'il est question du ransomware de la semaine. Il est question également de Red Hat OpenShift, mais surtout ensuite des dernières infos concernant Windows et Azure. Mais d'ailleurs, à propos d'Azure, nous avons le plaisir de retrouver Stanislas Castana qui nous rejoint pour plein de détails sur les dernières nouveautés sur le IaaS, les VM, le réseau, le stockage, le disaster recovery et bien d'autres. ITcast ne disparaît pas pendant l'été, on vous retrouve bientôt. En attendant, tout de suite, on retrouve Maxime et Stanislas. Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Maxime dans les bureaux de Microsoft. Salut Maxime.
Salut Pascal, salut à tous.
Et puis on a à distance un invité de marque qui était notre résident présentateur il y a quelques mois, Stanislas. Salut Stan.
Salut Pascal, bonjour Maxime. Bonjour.
Salut Stan.
Donc voilà, tu te retrouves maintenant invité dans le podcast, mais bon, il faudrait qu'on fasse ça plus souvent.
Oui, avec plaisir.
J'ai cru qu'on avait perdu Stan.
Ouais, le gars peut-être... qui réagit pas. Non, je suis là, je suis forcé.
Je pense que tout le monde doit te connaître, mais pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, je pense qu'on pourrait peut-être te présenter rapidement.
Oui, donc Stanislas Castana, je travaille chez Microsoft avec Pascal et d'autres personnes de Microsoft. Et je suis solution architecte, architecte solution cloud pour être plus précis. Et donc je fais beaucoup d'Azure tous les jours, voilà. Avec différents types de choses au-dessus d'Azure, du Windows, du Linux, et plein de trucs rigolos.
Voilà, donc on va avoir plein de news concernant Azure, et tu vas nous aider à dépouiller un petit peu tout ça et à décrypter toutes ces infos.
Avec plaisir.
Donc avant de commencer dans la foultitude d'infos qu'on a identifiées pour aujourd'hui, il faut quand même parler de l'actualité. Hein. On enregistre cet épisode le mercredi 28. Et donc, depuis 24 heures, il y a une alerte sécurité que vous avez forcément entendue à la radio, à la télévision, puisque je l'ai vu aux 20 heures hier à la télé. Enfin, c'est l'apocalypse, on dirait. C'est la dernière cyberattaque, comme on dit maintenant, et ça s'appelle Petya. C'est un ransomware qui n'est pas très éloigné du dernier qu'on a connu, qui s'appelait WannaCry ou WannaCrypt, selon les éditeurs. Et on retrouve des similitudes, d'ailleurs, hein, avec WannaCry.
Il y a des similitudes, mais il est beaucoup plus intelligent, celui-là. On vous partagera le lien de Microsoft hein, qui décrit très précisément ce que fait ce ransomware, mais effectivement il a quand même plus d'intelligence que globalement WannaCry en termes d'infection et de détection, de réplication aussi.
Donc il concerne toutes les versions de Windows, de Windows XP à Windows 10. Il faut être administrateur pour l'installer dans les premières instances, mais le problème c'est qu'une fois qu'il est installé par les voies habituelles, c'est-à-dire les mails, les pièces jointes, etc., il se répand, et il se répand de diverses façons, dont la fameuse vulnérabilité SMBV1 qui a été patchée au mois de mars sur les OS supportés et il y a deux mois sur les OS non supportés comme XP et 2003. Mais il a d'autres moyens de propagation latérale, comme on dit, plus exotiques. Donc attention.
Il va aussi récupérer les credentials de l'utilisateur dans la session.
Oui, il utilise des petits outils qu'on connaît bien.
Ouais.
pour faire ce genre de manip. Mais évidemment, pour faire tout ça, il faut qu'il soit administrateur. Donc c'est qu'à la base, on a eu peut-être une configuration un petit peu ouverte.
C'est ça. Ouais, qui dévie un peu des bonnes pratiques hein, quand même.
Voilà, donc c'est comme d'habitude, hein, il faut être patché, il faut avoir les dernières versions, il ne faut pas être administrateur, il faut avoir des antivirus à jour. Heureusement, les antivirus depuis hier sont tous à jour et reconnaissent le fameux Petya sous son nom Win32/Petya. L'antivirus Microsoft, mais les autres également, évidemment. Sinon, renseignez-vous. Et puis, donc, on a pas mal de pages web qui sont utiles à retenir, qu'on va mettre évidemment sur l'article associé à ce podcast. Il y a l'article dont parlait Maxime sur le blog du MMPC, du Microsoft Malware Protection Center. Il y a la page du MMPC spécifique au ransomware qui vous indique toutes les bonnes précautions, les bonnes pratiques vis-à-vis des ransomware. Il y a le site microsoft.com/protect/PC sur comment protéger votre PC. Pas mal de ressources qu'on vous mettra évidemment si vous êtes encore concerné vendredi, jour de publication de ce podcast. Voilà. Autre chose à dire sur cet incident ?
Non, bah patchez. Hein, je pense que voilà.
Patchez-vous bien.
Patchez-vous bien. Et n'oubliez pas, n'ouvrez pas les pièces jointes en tant qu'administrateur dans les messageries.
Ouais, sortez couvert.
Allez, c'est moi qui vais attaquer avec une news un petit peu indépendante des autres qui concerne nos amis de Red Hat, nos partenaires de Red Hat, puisqu'on a un partenariat qui court avec eux depuis 18 mois à peu près, depuis novembre 2015. Et ce partenariat avait plusieurs volets. Et au cœur de ce partenariat entre Red Hat et Microsoft, c'était de dire, ben voilà, on s'engage à aller l'un vers l'autre en partenariat, main dans la main, et par exemple à faire tourner des produits Microsoft dans les environnements Red Hat, et réciproquement faire tourner les environnements Red Hat sur nos plateformes, par exemple, notamment Azure évidemment, mais Hyper-V à la base, de façon à avoir une synergie efficace, quoi. Dernièrement, donc, c'était au début mai, le 8 et 10 mai, il y a eu un événement qui s'appelle le Red Hat Summit aux États-Unis. Et Julia White, donc notre VP, alors que je ne dise pas de bêtises, Stan, elle est VP Azure.
Elle est VP sur Azure, oui, tout à fait.
VP Azure, voilà. Est intervenue donc, lors d'une conférence au Red Hat Summit et a annoncé donc, où on en était aujourd'hui et quels étaient les derniers avancements de notre partenariat. Et dans ces annonces qu'elle a faites, il y avait donc la mise à disposition de SQL Server 2007, pour l'instant en preview, hein, sur Red Hat Enterprise Linux, de .NET Core sur Red Hat Enterprise Linux, également les deux sous la forme de containers Linux, donc mise à disposition potentiellement pour des environnements de type container comme OpenShift qui est la plateforme de PaaS basée sur Kubernetes et Docker chez Red Hat. Par ailleurs, également le support complet d'Azure dans CloudForms, qui est le système d'automatisation, d'orchestration hein, de Azure, qui permet de déployer tous ces composants dans la plateforme OpenShift et autres. Et ce partenariat entre Microsoft et Red Hat s'est pas mal concentré récemment sur OpenShift, et notamment avec deux choses. En fait, la mise à disposition de OpenShift dans Azure. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore dans le marketplace, mais ça le sera bientôt. Alors on a fait pour ceci deux choses. D'une part, une version d'essai en ligne. Vous savez qu'on a un mécanisme de trial qui consiste à essayer des solutions dans Azure pendant quelques heures. Mais de façon automatisée, on déploie une plateforme. Ça s'appelle un test drive, pardon. Voilà, je cherchais le terme. C'est quelque chose qui existe dans la marketplace d'Azure et qui permet de faire des test drives de produits de la marketplace pendant quelques heures. Pouf, on a automatiquement le produit complet qu'on peut tester. Et bien là, c'est pareil, on a fait un test drive de Red Hat OpenShift dans Azure, bien qu'il ne soit pas encore dans la marketplace. Donc c'est plutôt pratique si vous voulez tester les performances d'OpenShift dans Azure. À côté de ça, donc on a publié dans GitHub deux templates ARM pour déployer OpenShift dans ces deux versions les plus connues, donc la version open source qui est OpenShift Origin, et puis la version commerciale, donc la version OpenShift Container Platform. Et donc ces deux templates ARM sont dispo maintenant dans des GitHub officiels de Microsoft, directement dans le compte de Microsoft, car ils étaient déjà présents mais dans des comptes plus ou moins officieux. Et notamment, on les a sortis également, on a sorti les versions qui existaient dans les Quick Start Templates d'Azure. Pourquoi on les a sortis de là ? Parce que dans le Quick Start Template d'Azure, en fait, il y a un cycle de mise à jour qui est trop long pour l'auteur de ces templates qui préfère pouvoir intervenir dessus plus rapidement, quoi, avec un cycle de mise à jour plus rapide. Donc voilà, les templates sont disponibles. En parallèle de ça, Red Hat a publié sur son site à eux l'architecture de référence d'OpenShift dans Azure, telle qu'il l'avait déjà fait pour OpenShift dans AWS et dans d'autres plateformes, et dans OpenStack, etc. Et puis voilà, donc les trois choses, c'était ça. Le test drive dans Azure, les templates ARM et l'architecture de référence chez Red Hat. Le 14 juin dernier, le Red Hat Open Cloud Day avait lieu chez Red Hat à Paris. Et ça a été l'occasion pour moi, avec mes collègues de Red Hat et d'Accenture, de présenter une mise en application de OpenShift dans Azure avec le portage d'une solution d'Accenture qui s'appelle Adop, dont j'ai déjà parlé à maintes reprises, sur OpenShift dans Azure. Donc on avait la solution complète qui fonctionne plutôt pas mal. On refera cette démonstration pour ceux qui l'ont loupé au prochain MS Experience 2017 en octobre. Donc voilà pour ce que je voulais raconter sur OpenShift dans Azure. Windows maintenant. Quelques petites nouvelles concernant Windows client et Windows Server. Donc la première, c'est la possibilité donc de déployer des applications desktop, donc les anciennes applications, enfin anciennes entre guillemets, les applications de type non moderne, non UWP, sur Windows 10, mais aussi Windows 10 S, en passant par le store grâce à la technologie du Desktop Bridge.
Donc anciennement Centennial, c'est ça ?
Voilà, nom de code Centennial, exactement. Donc l'avantage, c'est qu'on pourra déployer donc ces applications classiques, y compris sur Windows 10 S, qui, rappelons-le, est un Windows 10 limité au fait qu'il ne peut installer des applications que provenant du Windows Store.
Il y a déjà eu des annonces de grosses applications qui devaient arriver. J'ai vu Spotify, là, le 20 juin, qui est dispo dans le Windows Store. Il y a iTunes qui devrait arriver aussi.
iTunes d'Apple,
et après, effectivement. Voilà, il y en a quand même quelques
effectivement,
autres.
iTunes a beaucoup de sens, puisque c'est une des premières applications exécutées sur Windows.
Ouais. Et Spotify est déjà disponible, du coup, voilà. On voit vraiment l'effort qui est fait pour intégrer tout ça dans le Windows Store, et même sur Windows 10 S, d'avoir toutes ces applications-là.
Ouais. Donc sinon, vous pouvez aussi transformer votre Windows 10 S en Windows 10 normal. Gratuitement jusqu'à la fin de l'année. C'est aussi une option.
Parce que c'est vrai que c'est un peu dommage. Moi, je les trouve super beaux, les Surface Laptop. Ouais. Ils sont vachement puissants. Effectivement, le problème, c'est un peu l'OS, pour ma part en tout cas, qui est pas, je ne suis pas forcément la cible de Windows S. Du coup, ouais, avec cet upgrade, c'est assez sympa de pouvoir passer une version complète de Windows 10.
Donc, comme exemple, tu as Spotify et iTunes. J'en ai pas d'autres de tête, mais je sais que j'ai des collègues qui travaillent avec les ISV pour notamment déployer des applications classiques dans ce mode-là, avec Desktop Bridge dans le store Windows. Par contre, je le rappelle, on l'a déjà dit la dernière fois, je crois, la dernière fois ou l'avant-dernière fois, les shells Linux n'en font pas partie. Bien qu'ils se trouvent dans le store Windows, eux ne seront pas déployables dans Windows 10 S. Ce n'est pas du Centennial, ce n'est pas du Desktop Bridge, et ça n'a rien à faire sur un OS très grand public, quoi, qui est fait pour les gens qui ne sont pas du tout développeurs, pas du tout techniques, et qui veulent juste installer des applications en ayant une garantie que ça marche. Quoi.
Ouais.
Ah oui, il y a Evernote aussi.
Ouais, effectivement.
Ouais, dans les applications connues, très répandues. Ok.
Oui, une build qui est apparue il y a quelques jours. Hein. Toujours dans ce travail de préparer la Windows Fall Creators Update qui devra arriver dans quelques mois. Enfin, non, quelques semaines plutôt. On n'a pas encore de date exacte, mais ça devrait arriver cet été. On verra.
Ouais, la fall, elle est censée arriver en septembre, d'après ce qu'on a dit à un moment.
C'est ça.
Mais elle est aussi censée arriver en automne.
Ouais.
Et l'intersection entre les deux fait 10 jours à peu près, donc entre le 21 septembre et fin septembre.
Ouais. Voilà, donc bon, vous avez à peu près la période. Et la dernière version Insider, la 16.226, en sachant qu'il y en a une qui ne devrait pas trop tarder non plus cette semaine. Elle apporte énormément de nouveautés. Alors on va pas toutes les énumérer. Il y a beaucoup d'améliorations graphiques, hein, côté Edge, côté Emoji, des trucs pour le grand public. Hein. Toujours l'intégration de OneDrive, File on Demand, ça on en avait parlé dans l'ancien ITcast.
Ça c'est la seule chose qui me fait regretter de plus être en Insider.
Ouais. Ça, c'est top. Alors, je sais pas si tu... Parce que tu as moyen de télécharger le client OneDrive à la main. Du coup, si tu l'installes sur ton poste non-insider, je sais pas si ça marche. On va peut-être tester.
Je ne prendrai pas le risque.
Sinon, pas mal d'améliorations au niveau end-user, au niveau clavier aussi. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, sur Windows Phone et Windows 10 Mobile, on avait le clavier où tu pouvais, tu sais, swiper entre les lettres.
Ouais.
Et tu avais la reconnaissance dans un dictionnaire, mais maintenant ça va arriver aussi. Enfin, c'est arrivé dans la Insider. Donc voilà, des trucs un petit peu sympas qui améliorent l'expérience tactile. Côté IT, et ça c'est en lien direct avec l'actualité dans ce moment, à partir de cette build-là, Microsoft a dit on arrête de mettre la partie SMB V1 serveur sur les Windows 10. Oui. Alors, on a toujours le client SMB V1 pour se connecter à des ressources SMB V1, mais on ne peut plus se connecter via le protocole SMB V1 sur un post Windows 10 à partir de cet insider. Voilà, donc au moins, quand vous serez en Fall Creators Update, il n'y aura plus de sujet SMB V1 pour les ransomware et autres, ça n'existera plus, du moins sur la partie serveur. Voilà, sinon, toujours de l'intégration de ce qu'ils appellent maintenant le Fluent Design. Voilà, donc on revoit l'interface de Windows. On est sur quelque chose un petit peu moins transparent, avec moins de je ne sais plus comment ils l'avaient appelé à l'époque, les interfaces avec pas mal de flou, pas mal de... À l'époque, c'était interface aéro. Enfin, voilà, il y avait pas mal de changements là-dessus. Voilà, donc ils sont en train petit à petit de repasser chacune des applications modernes UI et de voir le template global pour avoir quelque chose de plus... Voilà, ce qu'ils appellent le Fluent Design. Donc je vous invite à regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Pour certaines fonctionnalités, on ne voit pas trop la différence. Pour d'autres, voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus, un petit peu plus carré, c'est sympa. Voilà, donc je veux pas vous lister tout ce qu'il y a. Regardez, il y a quand même pas mal d'ajouts dans cette build 16.226 pour PC. Donc voilà, faites un petit tour dessus, regardez ce qu'il y a et préparez-vous pour la Fall Creators Update.
Suse, distribution de Linux bien connue, arrive donc dans Windows 10 Insider et je pense qu'elle doit être on doit pouvoir l'installer dans la dernière build. À partir du Windows Store. Donc ce qui est apparu en fait cette semaine, hein, c'est dans le Windows Store, les gens ont repéré deux versions de Bash supplémentaires, enfin deux distributions de Linux pardon supplémentaires. Donc une qui est la OpenSUSE version 42 et l'autre c'est une SLES, donc une SUSE Linux Enterprise Linux. J'ai pas noté la version. Mais donc c'est la version entreprise. Donc pour rappeler le principe, hein, dans Windows, on a, donc si on l'active, un noyau qui émule un noyau Linux, et par-dessus, on vient avec une distribution complète en mode user de Linux. Jusqu'à maintenant, on avait Ubuntu, actuellement la version 16.04, depuis la Creators Update, et maintenant, donc deux supplémentaires, SUSE Open Source, donc la OpenSUSE, et puis le SUSE Entreprise. Donc d'autres arrivent.
Hein. Ouais, il y avait Fedora, je crois, qui avait été annoncé.
Voilà, il y avait Fedora.
Enfin, qui avait été montré rapidement dans un événement. C'était pas la build d'ailleurs.
Exactement. Ouais. Il y avait Fedora, SUSE et Ubuntu. Donc voilà.
Vous avez eu l'occasion de la tester SUSE ou pas?
Pas du tout.
Du tout.
Non, en fait, pour être tout à fait franc, moi, actuellement, je passe plutôt du temps sur CentOS et Red Hat. Donc la Fedora m'intéresse beaucoup, l'OpenSUSE un petit peu moins. Quoique mon discours pourrait changer d'ici quelques temps, parce que je suis en train un petit peu de travailler sur la partie SAP sur Azure. Et en fait, il faut savoir que les déploiements SAP, 90% des déploiements SAP sont faits aujourd'hui sur une base de SUSE, en fait. SAP étant une boîte allemande, comme SUSE, en fait.
Ouais.
Voilà. Donc, du coup, peut-être que j'aurai plus d'intérêt sur le sujet dans quelques mois. Et pour l'instant, je suis plutôt sur le bash Ubuntu, ou alors la Fedora m'intéresse qui va arriver.
Et donc il faut la dernière build également Insider pour faire l'installation.
Ouais. Donc ça fonctionnera dans la Fall Creators Update du coup.
Ouais. Ouais. On a annoncé également des fonctionnalités de sécurité Windows 10.
Ouais. Pas mal de fonctionnalités de sécurité. C'est un petit peu l'air du temps là,
ouais,
en ce moment. Et alors on vous partagera le lien, pas mal d'annonces. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est, pour ceux qui connaissent bien la sécurité, avant, dans les anciennes versions de Windows, et toujours sur Windows 10, on pouvait utiliser Emmet. Alors, je sais plus ce que veut dire Emmet.
Oh, c'est compliqué.
Enhanced Mitigation Experience Toolkit. Voilà, c'est ça. Ce qui permettait de mettre en place un certain nombre de scénarios sur le poste, des scénarios de sécurité, de détection, etc., qui étaient assez avancés.
Ça se basait sur des process, donc on protégeait process par process, et en disant ce process-là qui n'a, sur lequel ils n'ont pas mis en œuvre telle protection de l'OS, ben on va la mettre en œuvre par-dessus. Quoi.
Et donc, du coup, ben, Microsoft a annoncé le fait d'intégrer Emmet nativement dans Windows 10, et donc ça s'appellera Windows Defender Exploit Guard. Voilà, donc toutes les fonctionnalités que vous connaissez sous Emmet, tout ce que vous pouvez faire avec, vous pourrez le faire avec la False Creator Update sans besoin de déployer quelque chose en plus sur vos machines. Après, il y a toujours Windows Defender Application Guard. Alors, c'était la possibilité de lancer des sites web via le navigateur Edge dans un environnement virtualisé, complètement isolé du système. Et après, l'administrateur gérait une liste de sites qui étaient autorisés à s'exécuter dans l'environnement Edge classique, et par exemple on pouvait dire tous les autres sites qui n'étaient pas considérés comme sécurisés allaient dans cette bulle virtualisée pour ajouter un niveau de sécurité supplémentaire. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis quelques temps maintenant dans les dernières versions Insider. Vous pouvez tester en activant les fonctionnalités qui vont bien dans l'OS, et après vous avez votre navigateur Edge qui tourne dans une bulle virtualisée complètement isolée. Ce qui permet d'avoir un niveau de sécurité supplémentaire. Pas mal d'intégrations et d'améliorations aussi de Windows Defender ATP, alors pour Advanced Threat Protection. Donc c'est une fonctionnalité qui existait de base sous Windows 10, qui permet avec du machine learning et de l'analyse comportementale de détecter des comportements suspects sur la machine et potentiellement des attaques. Par exemple, ATP était capable de détecter un comportement de type ransomware, un comportement suspect, des exécutions de code sur la machine, etc. Ce qui a été aussi annoncé, c'est l'intégration de Windows Defender ATP côté serveur, dans Windows Server, je ne sais plus quelle version. Ce sera sûrement dans une mise à jour prochaine, mais maintenant on pourra faire la même détection côté serveur et non plus côté client. Donc je vous conseille de lire l'article qu'on vous partagera. Ça montre un petit peu la direction que Microsoft va prendre côté sécurité avec Windows 10 et tous les outils qu'on peut utiliser derrière pour améliorer la sécurité, ce qui fait vraiment de Windows 10 le système d'exploitation le plus sécurisé chez Microsoft.
En fait, il y a une techno de base qui consiste à faire de l'isolation de plages de mémoire grâce au SLAT. Stanislas, tu me confirmes, c'est bien la fonctionnalité SLAT des processeurs, des derniers processeurs, quoi. Enfin, dernier maintenant, c'est pas si.
Dernier, bien. Ça fait déjà quelques années.
Maintenant. Ouais. Voilà.
Qui permet de. Je pense, 2008, le SLAT. Parce que c'était à 2008. Peu près l'époque. C'était 2008 ou 2008 R2. Parce que
on était jeunes à l'époque.
C'est là où on commençait à avoir ces prérequis en fait, pour installer Hyper-V. Donc pour moi, c'est 2008 parce que c'était avec Hyper-V. Hyper-V, il y avait deux fonctions activées pour pouvoir monter l'hyperviseur. Il fallait le SLAT sur les processeurs et il fallait la virtualisation matérielle. Quoi. Voilà. Donc tu vois, c'est pas si jeune que ça. Et pourtant.
Et donc je crois que ça utilise ça pour pouvoir faire ces isolations justement de portions, soit de code, soit de données, qui isolent des choses, même vis-à-vis de process qui auraient tous les droits, qui seraient administrateurs. Donc ça permet de faire ces fameuses isolations et toutes les fonctionnalités qui se terminent par guard utilisent plus ou moins cette capacité à isoler des choses.
C'est ça, credential guard, device guard.
Et finalement,
application
Stan,
guard, mais non.
Je sais pas si tu te rappelles, Stan, l'OS de Joanna Rutkowska.
Oui, Rutkowska.
Celle
qui avait écrit Blue Pill, c'est ça?
Oui. Comment s'appelle son OS déjà? C'est un OS basé sur un hyperviseur et donc qui isole grâce à des machines virtuelles les différents niveaux de sécurité, les différentes applications plus ou moins risquées, etc. On arrive à un principe assez proche. ce qui est assez, assez étonnant. Les grands esprits se rencontrent, en fait, hein, si on y réfléchit bien.
Alors, c'est Joanna Rutkowska, pas facile à dire, hein, c'est une polonaise. Et son OS, en fait, c'était Cube.
Cube.
Cube OS. Voilà. Basé sur une distribution de Xen Desktop, en fait.
Q-U-B-E.
Exactement.
Ok. Donc, on a parlé de Windows Client. Parlons un petit peu de Windows Server. Simplement pour dire que, et ça, c'est pas quelque chose de très technique, mais ça a sa petite
c'est très important quand même.
Ouais, c'est vrai. C'est que parmi les nouveautés de Windows Server qui vont tomber, il y a notamment le fait que Windows Server va se mettre au cycle de mise à jour semi-annuel qu'ont commencé à appliquer Windows 10, donc le Windows Client, et Office.
Et Office, ouais.
Également. Mm. Donc le cycle semi-annuel, bah, ça nous rappellera à quelqu'un. Hein. Ça consiste à sortir une version au printemps et une version à l'automne de façon très régulière. Donc nous, on avait annoncé à un moment que ce serait mars et septembre.
Oui.
Maintenant, dans l'article, là, on voit printemps et automne. Donc peut-être qu'il
y aura... Enfin, mars, on regarde, la Creator's Update est sortie début avril. Mais dans ces eaux-là, quoi.
Elle a été
buildée en mars.
Voilà, elle s'appelle 17.03 quand même.
C'est ça.
Du coup, là, on pourrait s'aligner sur les noms de Canonical, hein, vu qu'ils sortent
au mois d'avril
et au mois d'octobre. Ouais. Hein, donc, les versions 0.04, c'est celle d'avril, et les versions 0.10, c'est celle d'octobre.
Ben ouais. Nous, c'est mars et septembre.
Et il y a aussi System Center, hein, qui va suivre ce même rythme. Ouais. Donc là, on aura vraiment tous les produits structurants.
C'est la révolution.
Et donc, là où les choses se compliquent, c'est que Windows Server, il y a trois versions. Il y a Nano Server, Server Core et Server avec le Desktop Experience. Et donc, le Nano Server fera du semi-annuel, mais pas du long-term servicing.
Ça, c'était déjà forcé avec Nano Server. On était obligé d'installer ces mises à jour de manière régulière, de mémoire.
Je suis pas sûr. Mais de toute façon... Attention, parce qu'on change le positionnement de nanoserveur et server core. Il faut lire cet article, il y a plusieurs parties indépendantes. Ouais. Et notamment, il y a une chose que j'ai trouvée intéressante tout à l'heure, c'est le positionnement de nanoserveur et de server core qui change. Jusqu'à maintenant, on disait nanoserveur, c'est pour les nouvelles applications, .NET Core, etc. Server core, c'est pour les applications héritées, les anciennes applications, .NET complet, .NET Framework, ancienne version, etc. etc. Là, on dit plus ça. On dit nanoserveur, c'est pour les containers, ça revient au même, hein. Mais c'est pour les containers. Et server core, c'est pour les serveurs d'infrastructure. Donc, sous-entendu, nanoserver, c'est pour l'applicatif, nouvelle génération d'applications, containers, etc. Server core, c'est les serveurs d'infrastructure, les serveurs de service, les serveurs qui vont être des hôtes Hyper-V ou des hôtes de containers. Qui vont héberger tous ces services-là, plus les services d'infrastructure classiques. Quoi.
D'ailleurs, Marie-Jo Follet a écrit dans un article récent, je crois que c'est hier ou aujourd'hui, qu'a priori, dans les positionnements de nanoserveurs également, il semblerait, donc je ne l'ai pas vérifié, hein, c'est l'article de Marie-Jo Follet, mais elle est plutôt assez bien documentée en général,
tout à fait.
Qu'il n'y aurait plus en fait, le support d'installation sur du matériel physique de l'OS, de la version nano. C'est-à-dire que nano n'existerait que sous effectivement la forme de VM ou de container, mais on pourrait pas dire j'installe un Hyper-V sur un nano serveur avec derrière le support de tout ce qui va bien en termes de matériel. Donc je pense que ça veut dire qu'il briderait probablement ce qui s'appelle la HCL, je sais plus si ça existe encore le nom de la HCL, parce que c'est plus du hardware, mais ça serait limité uniquement
oui,
du
coup. Il y avait une option avec tous les drivers matériels, etc. pour en faire une version physique, effectivement.
Et là, ce serait retiré a priori.
Supprimerait ça. C'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. Je conçois le concept. C'est une phrase dans l'article que je n'avais pas interprétée comme ça, mais effectivement, ça a du sens.
Maintenant. Vous en avez vu du nanoserveur sur du physique ou...
Non.
Non.
Bon, voilà.
Non, mais c'est quand même tentant, parce que nanoserveur, c'est comme ça que ça devrait être un serveur. C'est-à-dire que dans Server Core, il y a encore une interface graphique qui est là et on se demande pourquoi.
Ouais, elle s'expliquait l'interface graphique parce qu'en fait, il y avait encore des. Malheureusement, il y a encore pas mal de pilotes, de fabricants de matériel qui ont des drivers qui doivent s'installer dont certains paramétrages se font par une UI en fait. C'était une des raisons pour lesquelles je pense qu'ils avaient entre autres conservé le sous-système graphique À la limite, c'est juste un driver VGA, donc c'est pas très consommateur non plus. C'est pas très grave non plus, qui est un système graphique. Mais je pense que la raison était principalement à cause de ça, de certaines notamment cartes réseau applicatifs où il fallait effectivement installer via des installeurs qui nécessitaient qui vérifiaient la présence de composants de la GUI. Voilà.
Ok, donc voilà, c'est assez pragmatique comme approche et c'est plutôt pas mal. Server core uniquement dans des containers ou des VM, nano serveur pardon, container ou VM, server core physique ou container ou VM, et puis serveur avec des store experience, où on peut et là où on en a besoin, c'est-à-dire dans des scénarios de remote desktop. Et donc le server core lui pourrait être installé en mode semi-annuel channel, donc mise à jour régulière, ou LTS, long term service sync channel. Et le serveur avec desktop experience, lui, ne pourrait être que en mode LTS, long term servicing channel. Ce qui fait que le LTSC, par exemple, il est supporté pour 10 ans, jusqu'à 16 ans avec la premium assurance, etc. etc.
Ça, il faut un software assurance, du coup, pour ce genre de truc, je pense. Hein.
Je suppose.
Bah, c'est le cas sur Windows 10, pour la version LTSB, donc... Il y a de grandes chances que ce soit aussi pour Windows Server.
Ouais, Windows Server donc a des previews qui vont venir aussi dans le programme Insider. Donc on va faire comme avec Windows 10, pouvoir tester à l'avance toutes les nouvelles technologies qui seront implémentées dans Windows Server. Il y a autre chose donc dont vous voulez nous parler, Maxime, à côté de Windows Server.
Bah il y a SCCM, toujours qui suit son petit bonhomme de chemin. Hein, en parallèle de Windows 10, parce que maintenant, effectivement, comme on disait tout à l'heure, on a un cycle de release qui est en même temps que Windows et Office. Voilà, encore une nouvelle version preview de Config Manager 17.06 qui apporte un certain nombre de nouveautés, alors pas tant que ça, hein, un petit peu de correctif. Il y a quand même pas mal de quelques nouveautés. Je vais pas toutes vous les énumérer. Un truc sympa, c'est vous avez une option maintenant qui vous permet d'enregistrer automatiquement vos PC dans Azure AD. Voilà, on a une stratégie qui permet de le faire. Et après, on va pouvoir bénéficier de tout ce qui est accès conditionnel basé sur l'enrôlement de la machine, qui est assez sympa, qui fait partie de ce qu'on peut faire avec la suite EMS et une licence premium Azure AD. Voilà, sinon d'autres petites fonctionnalités assez sympas. Je vous invite à regarder aussi le lien, à peut-être mettre à jour votre infra de test en preview. Et puis découvrir tout ce qui est sorti là-dessus. Voilà.
Et donc ça nous permettra de déployer sereinement notre MS 17.0.10 si on ne l'a pas déjà fait.
Tout à fait, et tous les patchs qui vont bien.
Donc Stanislas, tu vas entamer le chapitre Azure.
Ok.
Pardon.
Non, vas-y.
Non, j'allais dire avec une nouvelle concernant nos amis de Gartner.
Oui, c'est nos amis quand ils nous placent bien dans les cadrans, le Gartner.
Aujourd'hui, Gartner est mon ami aujourd'hui.
C'est vrai que Microsoft a pas mal progressé sur pas mal de petits cadrans. Hein.
Ouais, je pense qu'aujourd'hui, on est même les seuls à être dans autant de cadrans leaders. Hein. Pour rappel, Al Gartner, célèbre cabinet de conseil, de stratégie, hein, qui donne des grandes orientations sur le monde de l'IT. Hein. Donc, ils ont ces fameux carrés magiques, hein, qui sont donc un carré avec quatre cases à l'intérieur. Et l'objectif de quasiment tout le monde, de tout éditeur, c'est d'être dans la case qui est en haut à droite, c'est-à-dire la case des leaders. Donc, globalement, Microsoft, on est quasiment toujours dans cette case-là, quels que soient les services de cloud. C'est plutôt, c'est logique par rapport à notre stratégie qui est assez forte depuis des années sur la partie cloud. Mais là, donc, on a le cadran du Gartner qui vient de sortir pour la partie infrastructure as a service, et donc sur la partie cloud. Le cadran des leaders aujourd'hui, il n'a plus que deux. Hein, il n'a plus que deux acteurs, on va dire. Le premier, c'est Amazon, sans doute un petit peu, parce que c'est le leader historique sur la partie infrastructure de service, je précise bien. Et Microsoft, donc, est le deuxième. Et si on compare d'année en année, on s'aperçoit qu'on est en train de monter de plus en plus vers le coin en haut à, à droite. Donc on se rapproche, on est en train de combler doucement le gap technologique, fonctionnel, qualité, etc. Par rapport à notre concurrent numéro 1 qui est AWS. Donc c'est bon, c'est un peu logique, hein, c'est plutôt assez rassurant sur la stratégie. Et puis bah le marché de toute façon on voit bien que le marché de toute façon, il évolue dans ce sens-là, et qu'à la fin il risque probablement de rester que trois acteurs. Je dirais pas deux parce qu'en fait on ne doit pas oublier aujourd'hui Google Cloud qui est dans le cadran lui des niches entre guillemets et de ceux qui sont en train de d'émerger. Voilà. Donc numéro 1 Amazon en part de marché AWS pour la partie infrastructure, je précise bien, numéro 2 sur la partie infrastructure Microsoft, et puis numéro 3 un petit peu plus loin on a Google. Maintenant c'est juste une vue qui est assez enfin c'est vraiment une vue par un prisme qui est l'infrastructure. Après si on regarde les autres pans du cloud Azure que sont le PaaS etc, on s'aperçoit que du coup les cartes sont pas tout à fait les mêmes et que on justifie pleinement notre présence dans l'eau des cadrans pour les différents types de services, de différentes choses qui sont as a service. Voilà, c'est un petit peu le petit point. D'autant que notre stratégie va continuer sur la partie hybride, et que sur l'hybride, là par contre, on va se distinguer fortement par rapport aux autres. Je résume toujours, moi, les fournisseurs de cloud par des aspirateurs, hein, parce que la plupart, en fait, essayent d'aspirer les infrastructures sur site ou les services ou les applications qui sont sur site et les mettre dans leur cloud public pour les garder. Alors que, du coup, nous, Microsoft, on a pris une approche qui est un peu différente des autres acteurs comme AWS ou Google, notamment, qui est de proposer une solution à base de cloud hybride. Et donc, là, on est sur cet été, sur les prochains jours, à la sortie de la première itération prête pour la production d'Azure Stack. Qui, je le rappelle, est disponible sous la forme de clients hyper convergés, hein, et prêts à l'emploi chez HP, Lenovo et Dell. On a eu également une annonce que Cisco UCS va avoir une version Azure Stack en Q3. Et puis, durant le mois de juin, on a eu l'annonce de la part, non pas d'un constructeur, ou plutôt d'un constructeur associé à une société de services. C'est Avanade, en fait, qui a annoncé la disponibilité dans son portfolio en fait d'une offre Azure Stack. Donc ça veut dire qu'ils prendront en charge l'ensemble de la solution. Ils sont associés pour cela, bien entendu, à un constructeur matériel. Donc ils ont pris Huawei, qui est une boîte chinoise. Et en fait, ça rentrera Azure Stack, donc ils pourront soit l'emmener directement sur les sites des clients. Donc on aura donc un sous-ensemble des services d'Azure sur site dans des machines physiques, dans un data center du client. Et ils proposeront également d'héberger ces Azure Stack dans les data centers d'Avanade. Et puis ils vont l'offrir également au travers de la plateforme Accenture Cloud Platform, ACP. Comme on sait, hein, Avanade est une filiale d'Accenture, donc, voilà, c'est un peu logique. Donc le D'accord. modèle est un petit peu différent des modèles qui sont connus avec Lenovo ou avec HP ou avec Dell, où là on est plus sur de la vente de matériel et du service associé du constructeur. Là en plus on aura potentiellement un hébergement qui sera fait dans les locaux d'Avanade Accenture. Donc là, l'annonce elle est assez récente, hein, c'était début juin que ça a été fait.
Ils ont déjà annoncé des clients potentiels ou pas du tout ?
Je sais pas. Pas à ma connaissance. Ouais. Moi, je sais qu'en France, on a quelques clients qui sont en train de travailler dessus et qu'on a également quelques hosters qui sont en train de travailler sur la solution pour la proposer dans leur data center. Voilà. Je pense qu'à mon avis, on aura beaucoup plus d'informations et de retours. Je pense à l'événement Ignite qui aura lieu aux États-Unis fin septembre, et du coup par répercussion sur MS Experience qui aura lieu en France début octobre.
Juste après. Et le lancement donc est prévu pour Ignite ou c'est trop tôt pour le dire ?
Logiquement, ça devrait être lancé avant parce qu'aujourd'hui, les configurations chez les trois constructeurs principaux Dell, HP et Lenovo sont déjà accessibles, elles sont déjà quasiment publiques, et les gammes de prix sont déjà publiques au moins chez deux des trois constructeurs, parce que j'ai des partenaires déjà qui ont commencé à regarder les grilles tarifaires pour les précommandes.
D'accord.
Voilà, sachant que un Azure Stack, en fait, c'est pas, il n'y a pas d'installation à faire, c'est préinstallé en usine par les constructeurs, et qu'il y a un cycle qui est très formaté pour la mise en œuvre de ce type de solution, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une phase d'avant-vente où il y a une qualification des besoins du client, validation des prérequis en termes, on va dire, d'infrastructure physique pour recevoir ce matériel, et puis la phase d'installation est faite là encore par le constructeur ou l'intégrateur, on va dire, constructeur pour faire simple. Mmh. Qui va venir sur place installer le matériel et ensuite venir l'intégrer dans l'environnement existant du client. Mmh. Donc, en tout cas, voilà, les prix sont déjà connus, entre guillemets, des grilles tarifaires. Quand on est partenaire de ces constructeurs, on a déjà accès aux prix. Bon, c'est plutôt réservé à des entreprises ayant une certaine taille quand même, parce que
c'est un coût non négligeable hein, quand même.
Oui, c'est un coût clairement non négligeable. Oui. Donc, c'est un capex assez important. En termes d'acquisition, donc c'est pour ça que c'est plutôt réservé à des grosses structures ou à des GIE ou à des hosters, et pas du tout adapté à du monde, on va dire, moyenne marché, moyenne taille, quoi. Voilà, pour être tout à fait clair. Wallou wallou pour la partie hybride.
Oui, on en reparlera certainement.
Exactement.
La nouvelle suivante dont on voulait parler, c'était le fait que Microsoft a rejoint la Cloud Foundry Foundation. Donc tout à l'heure, je parlais d'OpenShift avec Red Hat. Hein. Il y a également Cloud Foundry dans le paysage. Et donc cette fois-ci, on s'est associé à la fondation. Donc on a rejoint la fondation Cloud Foundry en tant que Gold Member pour travailler en commun avec cette fondation autour de Cloud Foundry et son intégration dans Azure. Ça a été annoncé par Corey Sanders mi-juin. Directement à la conférence Cloud Foundry Summit à Santa Clara. Et donc, il a pu parler des différentes avancées très concrètes, dont les plus intéressantes, hein, c'est par exemple, très concrètement, la ligne de commande de Cloud Foundry directement dans l'Azure Cloud Shell. C'est le shell qu'on a dans la console, dans le portail Azure. On a la ligne de commande, comme ça, on pourra faire du Kubernetes, on pourra faire du OpenShift, mais on pourra faire aussi du Cloud Foundry si on veut depuis la console. Le support de certains services PaaS comme Azure Database pour MySQL, Azure Database pour PostgreSQL, directement accessible pour les applications qu'on va pouvoir déployer dans Cloud Foundry. Donc voilà, ça va être tout packagé. Et puis diverses autres intégrations au niveau du broker, au niveau de l'intégration avec Visual Studio, Team Services, etc., etc. Donc voilà, une intégration qui se fait tout doucement et qui permet de faire également du Cloud Foundry, donc du PaaS à la mode Cloud Foundry dans Azure. Donc toujours cet esprit d'ouverture hein, où en fait Azure est là pour héberger vos solutions, quelles que soient les solutions de PaaS que vous voulez utiliser. Il y a le PaaS Microsoft, mais il y a également d'autres PaaS qu'on peut directement héberger sur Azure. En fonction des besoins et des habitudes des clients. Ensuite, Azure Site Recovery. Azure Site Recovery, Stanislas, que tu connais très bien, pour en avoir parlé maintes fois, supporte maintenant les disques managés.
Donc oui,
vas-y.
Il y a plein de choses qui ont été apportées sur Azure par rapport aux disques managés. Ouais. Les disques managés, ce sont une sous-ressource du provider Compute qui permettent maintenant de créer des machines virtuelles sans avoir à gérer entre guillemets la logistique préalable de créer un compte de stockage, de créer un conteneur dans le compte de stockage, de créer des VHD dans le compte de stockage, de les attacher à la machine virtuelle, et puis d'avoir finalement un compte de stockage qui vit sa vie dans une fabrique indépendamment de la VM qui elle se déplace sur d'autres hyperviseurs à la fabrique. Donc, il y a quelques mois, on avait annoncé ce qu'on appelle les disques managés, qui sont donc des disques gérés entre guillemets par nous, c'est ça qu'on dit manager, gérer, dans le sens où le client final, le consommateur d'Azure n'a pas à gérer la création des comptes de stockage, des conteneurs, etc. Et donc ces disques en fait ont tendance, c'est prévu en fait, suivre les machines virtuelles sur les hyperviseurs pour être plus proche en termes de performance. Donc en gros, meilleure perf et meilleure disponibilité parce qu'il y a également répartition sur les domaines de panne et les domaines de ressources. Et donc c'est particulièrement utile pour notamment les virtual machines scale set, entre autres. Le truc, c'est qu'en fait, quand le disque managé est arrivé, bah, il y avait plein de fonctionnalités qui tournaient autour de la machine virtuelle, qui n'ont pas été adaptées immédiatement en fait, au disque managé. Donc il y avait effectivement ASR par exemple, Il y avait le chiffrement, il y avait le déplacement d'objets, par exemple, d'un compte d'un ressource groupe vers un autre, etc. Donc là, doucement, on est en train de rattraper ce petit gap. Donc effectivement, maintenant, Azure Site Recovery supporte des disques managés, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir réinstancier des VM avec des disques managés, et puis on va pouvoir également répliquer des VM qui ont des disques managés. Là, tu vas me dire, mais les disques managés, c'est que dans Azure, on réplique en général de sur-site à destination d'Azure. Et bien là, il y a une autre nouveauté qui est arrivée sur la partie Azure Site Recovery, c'est la capacité, en fait, de faire du PRA d'une région Azure vers une autre région Azure. Et donc, en fait, on peut avoir du coup une infrastructure qui tourne dans la région, par exemple, North Europe, qui est Dublin, et de dire, ben, j'en fais une réplication, je fais mon PRA sur la région West Europe qui est Amsterdam. Et donc, du coup, en fait, on a les mêmes mécanismes qu'on avait de sur-site vers Azure, cette fois-ci entre deux régions Azure. Et donc là, on comprend qu'il fallait absolument qu'on ait les disques managés supportés, parce que désormais dans Azure, la bonne pratique, c'est quand même de faire des VM avec des disques managés. Donc il fallait pouvoir les répliquer, les réinstancier de l'autre côté. C'est la raison principale de tout ça. Et sur les disques managés, comme je l'ai dit, on complète au fur et à mesure tous les services. On vient de rajouter très récemment, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, on a annoncé en fait le support de Storage Service Encryption pour les disques managés. Donc SSE, en fait, c'est une mécanique qu'on active quand on crée un compte de stockage, qui fait que le compte de stockage est automatiquement chiffré, donc chiffrement à Trust, mais la gestion des clés est faite par Microsoft. Donc, ça veut dire effectivement si un disque dur était extrait d'un data center, ce qui est très très fortement improbable, ce serait un disque qui serait chiffré.
Oui, c'est un chiffrement extérieur au VHD, en fait, au disque.
Exactement, exactement. C'est vraiment un chiffrement. Alors, dans le cas du compte de stockage, c'est sur la fabrique. Et comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, les disques managés n'ont rien à voir avec les comptes de stockage. C'est géré de manière indépendante. Donc, désormais, les disques managés sont traités de la même façon. Ils ont ce stockage qui est assuré à Trust. Donc, c'est-à-dire que physiquement, sur les médias, les disques sont chiffrés et c'est Microsoft qui gère les clés, voilà, pour ce chiffrement-là. Donc c'est du coup également assuré, nous le demander par défaut. Alors toujours sur le stockage et la sécurité, un truc assez intéressant qui est arrivé hier. C'est une fonctionnalité qu'on peut activer sur un compte de stockage Azure qui s'appelle Secure Transfer Required. Donc transfert sécurisé imposé. Aujourd'hui, quand tu as un compte de stockage, tu peux l'accéder en HTTPS ou en HTTP.
Oui.
Tu peux également utiliser, si c'est un file, le file service qui est sur le compte de stockage, tu peux y accéder en SMB 2.1, en SMB 3, mais tu peux y accéder en SMB chiffré ou non chiffré. Et bien là, en fait, on a désormais la possibilité sur un compte de stockage d'activer et de forcer, en fait, de mettre un petit taquet, un paramètre qui dit, ben, tout données transférées depuis ou vers ce compte de stockage doit être fait par des mécanismes avec chiffrement. Donc, c'est-à-dire du HTTPS quand tu vas faire du REST, ou du SMB V3 avec le SMB encryption qui est activé, situé sur de l'Azure File. Donc là encore, on garantit effectivement et on force en fait la confidentialité des échanges depuis ou à destination de Azure.
Ok, bah c'est des choses qu'on nous pose souvent, hein, qu'on nous demande souvent ça.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'au fur et à mesure, doucement, ça arrive.
Ouais, c'est clair.
Voilà. Alors Pascal, on parlait de sécurité, hein, du coup on va reboucler, on va un peu réinsister. La sécurité, ça passe aussi par bien maintenir à jour ces machines virtuelles. Et je crois que là-dessus, on a également annoncé quelques petites nouveautés.
Oui, tout à fait. En fait, c'est des choses qui existaient déjà dans OMS, de pouvoir remonter l'état des mises à jour de nos machines virtuelles et puis de pouvoir y remédier. On le voyait également dans Security Center. Et maintenant, on va pouvoir voir également ces informations et forcer des mises à jour sur nos machines virtuelles directement depuis la machine virtuelle elle-même. Donc on va pouvoir, depuis une machine virtuelle, dire ben, « je veux surveiller l'état des mises à jour de cette machine virtuelle ». Et éventuellement installer les mises à jour dont on a besoin. Ça va s'appliquer aux machines Windows, mais également aux machines Linux, Red Hat 6 et 7, Ubuntu à partir de la 12.04 LTS, et puis pour les Windows à partir de Windows Server 2012.
Pour ceux qui avaient déjà de l'OMS, en fait, c'est une fonction qui existait déjà dans OMS. En fait, on était capable d'avoir un dashboard avec en gros un petit camembert qui disait si les machines étaient patchées ou pas, s'il manquait des correctifs, critiques, pas critiques. Là, en fait, juste, vraiment, c'est, enfin, on est à peu près sur les mêmes bases en termes de fonctionnalité, sauf que là, en fait, ce visuel, entre guillemets, de l'état de la machine en termes de correctif manquant ou pas, il va être directement dans les lames, en fait, des propriétés de la machine virtuelle. C'est ça, la grosse nouveauté.
En fait, voilà, il y a une partie automation and control, et il y a une partie manage update, à partir de laquelle on pourra gérer les mises à jour de la machine virtuelle. Ouais. Et donc, on va pouvoir également les déployer, ces machines virtuelles. Depuis... éventuellement en les schedulant, donc en programmant le moment où les mises à jour vont se faire. Pour l'instant, c'est en private preview. Donc depuis l'article, il y a un lien pour s'enregistrer dans la preview pour pouvoir tester la fonction.
Alors ça gère toutes les mises à jour, dont les features upgrade, ou que les mises à jour mensuelles. Je sais pas, vous savez pas. J'espère que ça gère tout, mais...
Je pense que ça doit tout gérer, parce que si on regarde dans OMS, en fait, en OMS, c'est pas que les correctifs de sécurité.
C'est tout ce qui vient par Windows Update, je pense.
Bah, ou les updates de chez Red Hat, de chez Canonical, oui. De chez SUSE. Ouais. Pour moi, ça gère tous les types de correctifs. Je sens que le but ici, c'est surtout la partie sécurité, en fait, qui nous intéresse, hein, parce que il faut quand même le rappeler, hein, même si ça paraît évident pour beaucoup de personnes, mais quand on est sur de l'infrastructure de service, le fournisseur de cloud, en l'occurrence ici Microsoft avec Azure, garantit la disponibilité et la sécurité de la plateforme de virtualisation, mais ce qui se passe dans les machines virtuelles, c'est à la charge du client. Donc ça veut dire que, je veux dire, si on reprend un problème qui est assez récent d'hier, la problématique, en fait, elle reste la même qu'on soit sur site ou qu'on soit dans le cloud. On a une machine, si on ne fait pas derrière du patch management et de la gestion et qu'on vérifie qu'on est bien à jour, à un moment ou à un autre, on finit par avoir un problème. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on essaie de faciliter encore plus cette mécanique de mise à jour en donnant vraiment tous les visuels, tous les outils pour que ce soit quasiment très très simple à faire, même si c'était pas très compliqué jusqu'ici. Hein. Mais rappelons bien qu'effectivement, là, en aucun cas, Microsoft ou un autre fournisseur de cloud peut être responsable de ce qui se passe dans une VM si c'est de l'infrastructure as a service.
Ouais, tout à fait. En fait, je posais la question parce que je sais qu'on pour un client, on a le problème avec l'agent Intune qui sait pas gérer les mises à jour de fonctionnalités. Les biannuels, du coup on se retrouve avec un trou dans la raquette où on souhaitait approuver, gérer les mises à jour via ce client Intune et en fait on n'est pas capable. Donc il faut gérer ce qu'on appelle le dual mode sur la partie Windows 10 où on a une partie Windows Update qui continue à tourner et une partie client Intune, un peu comme le client SSM, qui va récupérer lui-même les mises à jour et les installer, quoi. Voilà, donc c'est pas super pratique en ce moment.
Ah, c'est vrai que les mises à jour des postes avec les mises à jour biannuelles, c'est un peu un challenge quand même.
C'est un gros challenge. Hein. On s'aperçoit, notamment chez pas mal de clients qui ont une toute petite bande passante, que si on ne gère pas ça de manière fine et au final avec un WSUS ou quelque chose qui est capable de faire la distribution entre postes sur le LAN, voilà, on est très vite limité. Alors, on peut faire des choses assez élégantes avec Windows 10, qu'on appelle le Delivery Optimization, qui permet de faire du peer-to-peer entre les postes. Sauf que le client Intune, il sait pas faire ça. Le client SSM, il sait faire ça, mais il n'utilise pas non plus le Delivery Optimization. Donc voilà, on a des petites spécificités par produit qui font que des fois ça marche, des fois ça marche pas aussi bien qu'on l'espérait. Mais effectivement, j'ai déjà pas mal travaillé sur OMS. La partie monitoring des updates est super sympa. Donc voilà, je pense que cette nouvelle feature en private preview va aussi être intéressante à tester.
Ouais. On continue sur le stockage. Une annonce qui a l'air de rien, mais qui en fait est très importante. On a annoncé des nouvelles tailles de disques durs. Je fais toujours la blague, hein, the bigger is better. c'était aujourd'hui, on avait jusqu'ici. La limitation en taille d'un disque dur VHD dans Azure, pour une machine virtuelle Azure, était de 1023 gigas, donc à peu près 1 Tera. Et puis en fonction des tailles de machines virtuelles qu'on utilise, eh ben on peut attacher plus ou moins de VHD de 1 Tera à la machine, qu'on agrège après par des mécaniques de type RAID logiciel, LVM, Storage Space sous Windows 2016, etc. Donc on était à 1023, il y a eu des nouvelles tailles de disques qui ont été annoncées, donc il y a des gros disques, donc on appelle ça les P40 et les P50. Donc ce sont des disques qui vont faire des tailles de 2 Tera par disque et 4 Tera par disque. Donc les P40 sont à 2 Tera, les P50 sont à 4 Tera. Si donc les deux existent dans ça existe dans les deux formats de stockage, c'est-à-dire standard, où là on reste sur du stockage basé sur du rotatif à 500 I/O par seconde par disque dur virtuel. Et puis on a les versions premium qui elles sont basées sur du SSD. Et donc les P40 de 2 Tera et les P50 de 4 Tera tournent tous les deux en fait avec 7500 I/O par seconde et des bandes passantes de 250 mégabits. Ce qui donne des très très bons disques pour des grosses bases de données qui ont besoin de performance. Et à l'inverse, on vient d'annoncer également des petits disques durs pour des machines qui n'ont pas forcément besoin d'avoir une grosse volumétrie. On pense peut-être à des petits OS Linux ou des Windows Core ou autres. Et donc on a annoncé les P4 et les P6 qui eux sont des disques de 32Go et de 64Go. Donc si je dois résumer aujourd'hui, quand on veut créer une machine virtuelle dans Azure, on a le choix en termes de taille entre 32Go, 64Go, 128, 512Go, 1023, 2 Tera ou 4 Tera. Donc là, globalement, on a un spectre désormais qui est beaucoup plus large et qui, du coup, est beaucoup plus intéressant également économiquement en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Voilà, ça, c'était une bonne nouveauté, en tout cas, qui était attendue depuis... Alors moi, j'avais beaucoup, beaucoup de demandes de clients qui, effectivement, quand ils avaient des grosses volumétries, ils étaient embêtés parce qu'ils devaient prendre des machines virtuelles qui étaient assez grosses pour pouvoir attacher beaucoup de disques d'un tera pour répondre à leur volumétrie. Désormais, on pourra avoir des machines plus petites, mais avec des plus gros disques derrière.
Et tu as vu aussi chez certains clients qui réclamaient des disques plus petits, justement, pour payer moins cher, pour les P4 et P6, oui.
Ouais, en fait, parce que là, on était typiquement sur les disques système ou pour des plus petites volumétries pour des usages particuliers. Ouais. Le HPC notamment, mais il n'y avait pas que ça. Et effectivement, quand tu es sur du disque qui est soit en premium, soit en version demanagée, ben en fait, on paye vraiment l'espace du disque. C'est-à-dire que si tu prends un disque de 32Go, tu payes 32Go. Si tu payes 128, tu payes 128. Ce qui est très différent de ce qu'on avait à l'origine dans Azure ou ce qu'on a de base avec les comptes de stockage standard qui, eux, sont sur un paiement vraiment à l'usage, entre guillemets. Là, tu pouvais provisionner et avoir un disque de 1 Tera et puis tu payais ce que tu avais vraiment dans ton disque de 1 Tera. Désormais, comme la plupart des disques sont managés et donc provisionnés avec la taille, c'est important de pouvoir avoir des tailles qui soient petites et adaptées. Pas la peine de payer 128Go réservés quand ton système Linux va faire tourner le tout avec 32Go, quoi, ou moins. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est la raison d'ailleurs principale.
Est-ce qu'on n'a pas un corollaire là de la limite à 4 Tera maintenant, qui est que on supporte maintenant les VHDX, puisque alors, la taille limite d'un VHD c'est 2 Tera. Je viens de vérifier pour être sûr.
Oui, mais un VHDX, si je me souviens bien, la limite est de 64 Tera, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
C'est ça ?
Il me semble, oui.
Donc, non, j'ai pas entendu parler de...
Parce qu'un VHD, c'est 2040Go. Donc, 2 Tera, quoi.
Ah, intéressant. Effectivement, le VHD format était à 2 Tera. C'est vrai. Mais le VHDX est limité à 64 Tera. Mais écoute, j'ai vu nulle part passer la notion de VHDX. Alors, soit on l'a masqué derrière, et peut-être que les VVM qui sont créés dans Azure auront un VHDX quand elles auront des disques 4 Tera. J'en ai pas d'idée.
Alors, ils disent dans l'article, pour uploader des VHD files de plus de 1 Tera, comme PageBlob ou Unmanage the Disk, utilisez les derniers outils rédigés. Les plus gros PageBlob dans Azure, c'est 8 Tera. On ne supporte pas d'attacher any PageBlob de plus de 4 Tera to EVM as data or OS disk. Donc, effectivement, on peut attacher les PageBlob de 4 Tera à une VM, mais il ne parle pas du format du fichier.
Peut-être qu'on utilise qu'on commence à avoir du VHDX, ce qui ne serait pas déconnant, hein, parce que les hyperviseurs d'Azure doivent évoluer également, et on se doute qu'ils pourraient supporter le VHDX. Maintenant, je pense qu'on ne pourra pas transférer encore des VHDX, sinon je pense qu'ils l'auraient annoncé toujours sur les parties des choses qui ont pas mal augmenté, et c'est plutôt une bonne nouvelle. On a eu l'annonce des passerelles VPN qui désormais sont jusqu'à 6 fois plus rapides. Vous savez que pour vous connecter, interconnecter un réseau sur site, une entreprise, à un réseau virtuel qui est dans Azure, et ben on a deux options. Soit on fait du VPN site à site, soit on fait de l'Express Route, qui est de la connexion dédiée avec des points d'échange comme Equinix, par exemple. Jusqu'ici, nos passerelles étaient le maximum qu'on avait, on était, si je dis pas de bêtises, vers les 200 ou 300 mégabits maximum de bande passante sur une passerelle VPN. Et du coup, ça faisait on arrivait vite, entre guillemets, à la limite dès qu'on commençait à avoir un petit peu de trafic. Et du coup, on n'avait pas beaucoup de choix à part commencer à penser à Express Route, qui est un projet un peu à part. Donc désormais, en fait, on a revu nos passerelles complètes. On leur a donné d'ailleurs des workloads de type. Donc on a la passerelle basique désormais qui, elle, est limitée à 100 mégabits avec un taux de dispo de 99.9. Et puis, on a désormais trois niveaux de passerelles supplémentaires qui s'appellent VPN GW 1, 2 et 3 qui vont aller de 650 mégabits par seconde, 1 gigabit jusqu'à 1,25 gigabit et les trois avec un SLA qui sera de 99.95. Donc on voit qu'on a amélioré le SLA déjà là-dessus. Et puis on voit également qu'on a fortement quand même amélioré la bande passante, parce que déjà quand on peut assurer 1,5 gigabit de bande passante sur des passerelles VPN site à site, déjà on répond à pas mal de besoins clients. Puis quand il y a vraiment besoin d'avoir plus, soit on met plusieurs passerelles, soit on va plutôt avoir tendance effectivement orienté vers Express Route. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle que désormais on ait des passerelles qui soient vraiment à haute performance pour des prix qui sont pas beaucoup plus chers. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle. Il y a pas mal de monde qui a été intéressé par ça, parce que ça veut dire principalement dans les marchés de moyenne taille des entreprises, c'est peut-être un peu compliqué des fois de mettre en place de l'Express Route, hein. C'est peut-être un peu cher versus une passerelle VPN site à site. Jusqu'ici, on avait vraiment une limitation sur la bande passante. Là, je pense qu'avec 1,25 gigabit de bande passante, globalement, on couvre beaucoup plus de besoins sans pour autant imposer d'avoir de l'Express Route.
Et pour ceux qui avaient déjà des gateways, il y a une transition qui sera faite automatiquement, ou on conserve ce qu'on avait déjà avant? Comment ça se passe?
Alors, je crois que je l'avais lu, ce truc-là. Je crois qu'il fallait la recréer, si je dis pas de bêtises. Mais il y a un article qui dit à propos de la migration. Oui, on peut pas redimensionner une passerelle directement de l'ancien mode vers le nouveau mode. Donc en fait, la solution qui est donnée, hein,
c'est de supprimer, tu recrées quoi.
Voilà, de casser la passerelle existante et d'en créer une nouvelle. Okay. Donc il y a un petit workflow de migration qui est donné, hein, donc en gros supprimer les connexions sur la passerelle, supprimer l'ancienne passerelle, créer la nouvelle, mettre à jour les équipements sur site avec la nouvelle adresse de la nouvelle passerelle, et puis mettre à jour les valeurs en termes de routage, et puis voilà quoi. Okay. Donc c'est pas extrêmement compliqué, mais par contre c'est vrai que ça impose un downtown.
Ouais.
Tu vas effectivement au moment arrêter des passerelles. Voilà.
Parce que j'ai vu là, à partir de septembre, tu pourras plus créer d'anciens modèles. Par contre, jusqu'à quand tu pourras utiliser tes anciens modèles? Je ne sais pas si c'est précisé quelque part.
Je pense qu'on ne va pas les supprimer du jour au lendemain parce que tout le monde n'a pas que ça à faire de s'amuser à casser sa passerelle VPN. Donc, quand on regarde aujourd'hui, ça l'histoire le montre bien, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont encore relativement vieilles, qui proviennent d'ASM et qui fonctionnent toujours. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci. Les problèmes pourront se rencontrer plus tard. Par exemple, si un client il a un abonnement de type PSUGO ou accord entreprise, et que par exemple ils veulent déplacer vers un abonnement CSP partenaire, donc Cloud Solution Provider, qui veut déplacer ses ressources, un CSP en fait n'accepte que les nouvelles ressources de type ARM, il y a peut-être des chances qu'à ce moment-là il y a besoin d'une petite migration parce que les ressources ne sont plus disponibles dans la nouvelle plateforme. Mais je pense qu'on est tranquille assez longtemps sur les passerelles VPN. Moi j'en ai qui tournent depuis 3 ans déjà des passerelles, et ça, il n'y a vraiment pas de soucis quoi. Donc je pense que ça va être gardé, ça. C'est comme les machines classiques aujourd'hui. J'ai encore plein de clients qui ont des machines et des infrastructures en classique, alors qu'on fait de l'ARM depuis 3 ans, quoi. Ouais.
Et du coup, à part cette montée de perf, il y a des nouvelles fonctionnalités pour ces nouveaux modèles de gateway ou pas?
Il y a des évolutions qui sont vraiment permanentes sur les passerelles VPN depuis quelques mois. Et effectivement, on a rajouté quelques éléments, dont notamment la capacité de connecter en fait plusieurs depuis un VNet Azure, de connecter plusieurs passerelles sur site avec des politiques différentes. Donc en gros, envoyer le trafic de telle adresse vers telle passerelle du client sur le site numéro 1, vers telle passerelle, vers le site numéro 2, etc. Donc en gros, on peut avoir une passerelle Azure avec plusieurs tunnels qui sont sur différentes passerelles VPN sur différents sites du client et faire des politiques basées par rapport à des stratégies qui vont envoyer le flux de réseau d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est une des choses qu'il y a. Et aujourd'hui également, on peut du coup changer également les politiques IPsec, et les stratégies IPsec et les stratégies IKE en fonction des passerelles. Donc voilà, ça c'est fait partie des nouveautés qui ont été annoncées. Mais il y en a eu pas mal d'autres qui ont été annoncées dans les mois précédents. On a investi massivement sur la partie BGP. Et donc maintenant, on peut vraiment faire des architectures réseau qui sont, je dirais, assez velues. Avec utiliser Azure comme chemin de transition quand le chemin principal, par exemple, d'un VPN site entre deux clients marche pas, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de combinaisons. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais on mettra les liens derrière. De toute façon, l'article qui parle des nouvelles passerelles redonne des liens justement vers ces nouvelles fonctionnalités la passerelle VPN d'Azure.
Ok.
Bon, qu'est-ce qu'on a encore là comme nouveauté?
C'est une avalanche, Pascal.
C'est une avalanche, hein, ça n'arrête pas. C'est Azure, Azure, Azure.
Moi, je veux pas casser votre délire de nouveauté, mais moi, j'ai un tout petit sujet sur Server Management Tool. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé.
C'est moi que
j'ai fait. Bah oui, il faut bien en parler aussi, hein, quand même, parce que je pense que c'est important.
C'est le côté concret du podcast, Maxime.
Ah, complètement. Moi, je peux me permettre, je bosse pas chez MS. En fait, Server Management Tool, c'était une interface graphique qui était disponible dans le nouveau portail Azure, qui permettait, en fait, de manière un peu graphique, d'afficher des informations sur vos serveurs on-prem. Alors, il fallait déployer une gateway on-prem, hein, c'est-à-dire un petit agent sur un serveur qui a accès aux autres serveurs. Ouais. Et voilà, vous avez dans l'interface du portail Azure une remontée, par exemple, sur les process, les services, les devices, tout ce qu'il y a dans le Device Manager, voire... la conf du système, etc. Et vous pouvez même administrer vos serveurs à distance en lançant du PowerShell, des command line, etc. Voir les event logs. Alors ça, c'était en preview depuis février 2016. Et malheureusement, voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément eu un besoin très fort de cet outil-là. Il sera décommissionné à partir du 30 juin 2017.
Alors ça commençait bien ton histoire, puis ça finit très mal.
Je sais. Je suis un petit peu déçu, parce que moi je l'avais déployé, c'était super sympa. Voilà. Ouais. Dans le portail Azure, tu pouvais voir tous tes petits serveurs. Je m'étais fait un beau dashboard avec la conso CPU, la conso RAM. Et, donc malheureusement, voilà, on n'aura plus cette fonctionnalité-là. C'était vachement utile, notamment si tu avais du nano server ou du server core où t'as pas d'interface graphique. Là, tu avais vraiment la possibilité d'utiliser ça pour voir ce qui se passe sur tes VM.
C'était positionné comme ça, mais on pouvait très bien gérer autre chose.
Bien sûr. Alors, ça marchait au départ, ça marchait que en 2016 preview. Après, c'est sorti donc bien sûr pour 2016 et 2012 et 2012 R2. Donc, on pouvait gérer ces trois versions de serveurs.
Mieux que ça, ça permettait de faire des choses à distance qu'on ne peut pas faire avec les outils d'administration classique à distance. Ouais. C'est-à-dire qu'avec les outils qui font beaucoup de choses à distance en RPC ou en WinRM et tout ça, il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire, comme par exemple le Device Manager dont tu parlais.
Ouais.
Ça, c'est le seul moyen que je connaissais d'avoir le Device Manager à distance sur une VM, sur une machine, quoi, à part de faire du RDP. Mais bon.
Alors, vous avez les raisons derrière ce décommissionnement?
Pas du tout, parce que je ne le savais même pas.
Pas
tu
d'utilisation
savais, ça Non, enfin, moi, non. Hein.
Ouais, je pense que, actuellement, je pense que ça a été assez peu utilisé. Hein.
Ouais. Ça, ouais.
Moi, je sais que je l'ai utilisé parce que j'ai écrit un article de blog sur le sujet. mais j'avoue que dans la vraie vie de tous les jours, j'en avais pas vraiment un usage. Enfin, personnellement. Bon, après, il se peut également que Azure Remote App se sentant seul dans les services abandonnés, vous voulez avoir des amis, et que du coup Remote App le rejoint.
Ouais. Voilà. Bon, c'est dommage, voilà. Donc, si vous avez déployé quelque chose, en sachant que c'était qu'en preview, hein, pour l'instant, il n'y avait rien officiellement en GA. Donc, voilà, au 30 juin, tout sera supprimé. Donc, voilà. Faites encore un dernier tour sur l'interface si vous voulez voir, mais après c'est mort.
La semaine dernière, la dernière fois, on peut faire une rubrique spéciale produits abandonnés.
Produits
abandonnés. Docs.com.
Ce serait triste.
Fois.
Mais... Non mais voilà, je veux pas casser l'ambiance, mais effectivement, il y a quand même des services parfois qui s'arrêtent et c'est bien aussi de le notifier parce que bah, si vous comptez investir un petit peu dessus, bah, c'est plus la peine.
En fait, non.
En même temps, c'était en preview, donc ouais. Ça faisait quand même beaucoup de mois que c'était en preview.
Ça fait un an, ouais. Plus d'un an même.
Voilà, en général, quelque chose qui est en preview trop longtemps, soit il est en train de se bonifier, soit il bouge pas depuis le début de la preview, ce qui est à peu près le cas ici. Et ça peut donner effectivement une légère tendance.
Ouais.
Sinon, il reste quand même des bonnes nouvelles. Hein.
Bah oui, on va pas si, finir sur une note négative quand même.
Ah bah, j'ai une note ultra positive. Hein. Je le prends rigolant parce que ça paraît bête comme ça. Désormais, avec Azure Backup, on peut sauvegarder donc, l'Azure Backup et son agent Mars qu'on installe sur les machines à sauvegarder Windows. Eh bien, on peut sauvegarder le System State de Windows. Oui, vous avez bien entendu, on est en 2017. Et désormais, notre solution de backup dans le cloud avec un agent installé simplement sur les machines à sauvegarder peut sauvegarder non seulement les datas, mais en plus également le System State. Donc, ça veut dire les configurations de cluster, les métabases de ZIS quand c'est des vieilles versions de Windows, l'Active Directory. Ouais.
J'ai envie de dire enfin, hein, quand même.
Mais oui, non, mais je prends volontairement. Oui,
c'était ironique.
En plaisantant. Mais bon, c'est quand même une nouvelle qui va dans le bon sens. Parce que là, du coup, la solution devient encore plus intéressante. Elle l'était déjà pour la partie data. Et on sait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé hier, on sait que c'est super important d'avoir des sauvegardes. On devrait tester de temps en temps d'ailleurs, on devrait restaurer. Mais là, en plus, du coup, là, on peut remonter des systèmes à partir du système 16, chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'ici.
Ouais, et donc, apparemment, ça marche depuis 2008 R2 jusqu'à 2016.
Ouais, ce qui est pas mal hein, quand même. Hein.
C'est bien.
C'est une option, c'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on veut sauvegarder et parmi lesquels le système state. Comme...
Oui, c'est comme l'agent de sauvegarde Windows Backup, hein, sauf que l'interface est la même, il y a écrit Azure Backup dedans. Et jusqu'ici, effectivement, on ne pouvait pas sauvegarder le System State. Quand on avait cet agent, la connexion avec l'agent direct, hein, c'est-à-dire que tu as le backup, le Vault Azure, et puis tu as une machine, et puis tu dis cette machine va directement sauvegarder dans Azure.
Donc, voilà. Bon, allez, vu qu'on a été très long, là, et une petite dernière pour la route. Ping Access, tiens. Ping Access for Azure AD, qui est maintenant generally available. Donc Ping Access, en fait, c'est une technologie qui permet d'offrir un protocole d'authentification basé sur les headers au niveau applicatif d'une application web. Je pense à des scénarios de type Azure AD Application Proxy, donc dans lesquels on publie à l'extérieur des applications qu'on a dans notre data center en interne. Donc la première méthode pour faire du single sign-on sur ces architectures-là, c'est du Kerberos, en faisant du Kerberos Constraint Delegation au niveau du proxy, au niveau du connecteur qu'on installe dans notre data center, qui lui se connecte au proxy, et le connecteur donc fait du Constraint Delegation Kerberos pour faire du SSO vers les applications qui sont derrière. Donc Ping Access nous offre une autre possibilité, un autre protocole d'authentification qui est une authentification basée sur les headers. Et donc il faut installer donc un service Ping Access qui est disponible et qui va traduire donc l'authentification Azure AD que l'on aura du côté App Proxy en header pour nos applications internes.
C'est ça. Mais je l'ai testé très rapidement. En gros, donc faut aller dans le portail. Choisir après quand on crée une app de type app proxy, il faut choisir donc l'OTANT par les headers. Après donc on nous propose un lien de téléchargement vers le site de Ping Access. On va rentrer des petites informations sur le site de Ping Access pour avoir les sources et le fichier de licence. Et après on installe le connecteur où on veut. Voilà. Et ça marche plutôt. Alors j'ai pas de scénario moi-même où j'ai des applications avec une OTAN par header, parce que moi j'utilise que du 2IS, donc par défaut j'utilise l'OTAN Windows. Voilà, je pense que pour ceux qui ont déjà ou qui utilisaient déjà Ping Access, l'avantage c'est que maintenant on peut vraiment intégrer cette solution à Azure App Proxy. Alors par contre, Azure App Proxy, pour info, c'est dispo à partir d'Azure AD basique. Pas besoin d'avoir des licences premium pour l'utiliser. Ouais, petite info, licensing au passage.
C'est super important.
Voilà, bon, pendant qu'on est sur le petit sujet Azure AD, on va faire très rapidement. Stan peut-être nous parler du nouveau content pack Power BI d'Azure AD.
Oui, je peux.
Bon, si tu veux.
Oui. Non, c'est alors comme tu m'as dit, hein, le on peut un peu connecter pour un BI avec Azure Active Directory hein, par les API, le graph, etc. Et alors ça existait déjà depuis quelques temps. Je sais plus combien de temps d'ailleurs, parce que tu connaissais plus le sujet que moi, Maxime. Mais aujourd'hui, on a annoncé en fait que pour le Content Pack Power BI Azure Active Directory, on avait deux nouvelles vues en fait qui étaient disponibles. Donc, en gros, c'est des beaux dashboards très très visuels qui vont cruncher en gros les données qui sont dans Azure AD, qui leur ressortent ça de manière intelligible et utilisable par des équipes IT, des managers ou autres.
Ouais, ils sont vraiment sympas hein, ces dashboards, parce que même si les rapports avancés qu'on a via Azure AD Premium sont corrects, voilà, on n'a pas effectivement de vrai dashboard graphique. On a quelques petites tuiles hein, qu'on peut accrocher sur son dashboard du portail Azure, mais on n'a pas toute cette puissance que nous apporte Power BI et cette facilité de créer des rapports derrière. C'est vrai que
le premier... C'est dynamique, hein. C'est dynamique
quand même. Complètement. Le premier content pack, il datait de janvier 2017, donc voilà, ils sont améliorés depuis avec les deux vues dont tu parlais.
Et donc les deux vues, c'est lesquelles? Et ben la première permet de savoir en fait quels sont les devices qui se sont connectés au service via Azure AD hein, durant les 30 derniers jours. Du coup, on a la proportion d'équipements si on est sur du Mac, du Windows. On a également un joli camembert qui va donner les différents types de navigateurs qui sont utilisés, Chrome, Edge, Firefox, etc. Le nombre de utilisateurs uniques, le combien il y a eu de logon qui ont été réussis. Et puis après, on a un super tableau qui donne effectivement quand s'est connecté l'utilisateur, à quelle application, depuis quelle adresse IP, depuis quel type de device et quelle version. Ça, c'est le premier des deux dashboards. Et le second dashboard, en fait, il va faire une sorte de rapport, là encore très très visuel, très dynamique, sur le nombre de personnes qui ont fait un reset de leur mot de passe en mode libre service durant les 30 derniers jours. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que, en fait, on a un état de vraiment tout ce qui s'est passé dans cette phase de reset, c'est-à-dire entre celui qui a commencé à faire la phase de reset et qui est arrivé jusqu'au bout à faire le reset de son mot de passe. Le nombre de ceux qui ont échoué, le nombre de ceux qui sont arrêtés dans le processus de reset du mot de passe, etc. Et puis par quelle méthode ils sont passés? Est-ce qu'ils sont passés par des captcha? Est-ce qu'ils sont passés voilà? À quel moment ils sont arrêtés dans le funnel? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent sur le point d'entrée pour utiliser le mot de passe, puis il y en a toujours qui arrivent pas. Ils ne demandent pas pourquoi, mais qui s'arrêtent dans le processus. Et ben là, en fait, on a vraiment ce qu'on appelle un funnel, c'est-à-dire le point d'entrée et jusqu'où ils sont arrivés et combien ont réussi à la fin. Finalement, par rapport aux 100% qui ont démarré, à avoir fini par resetter leur mot de passe.
Ça, c'est super, donc, super intéressant, parce que moi, j'ai eu la question d'un client pas plus tard qu'il y a deux semaines, et j'ai dû moi-même aller me connecter aux API, aux graphes et tout ça, pour fouiller dans les rapports et faire moi-même ce rapport dans un fichier Excel, alors qu'avec ça, j'aurais pu gagner une demi-journée, quoi.
C'est pas grave, tu l'as facturé, j'espère.
Ouais, bien sûr, mais je travaille jamais gratuitement.
Donc tout va bien.
Tout va bien, mais bon, autant facturer une demi-journée et puis faire un dashboard.
Mais c'est vraiment génial, je trouve que
c'est
ultra visuel. Alors après, je connais pas moi les autres dashboards qui sont dans ce content pack. Tu les as peut-être travaillés, toi?
Alors les autres, c'est du signing, ouais. C'est plutôt sur du signing. Alors ce qui était publié début janvier, c'était. Voir par exemple les connexions des 30, combien de connexions les 30 derniers jours, parce qu'il faut savoir que ça se base quand même sur l'historique des rapports, hein, donc c'est pas illimité non plus, ça se base sur l'historique des rapports Azure AD de base. Ça se basait sur la localisation des utilisateurs connectés, donc maintenant tu as les devices, hein, tu disais. Par contre, à l'époque, il fallait Azure AD Premium pour accéder à ces rapports-là, parce que c'est des données qui étaient accessibles que dans les rapports avancés fournis par la licence Premium. Je pense que ça doit être la même chose pour ces deux nouveaux ajouts, à vérifier. Il faudrait que je fasse le test, mais dans tous les cas, c'est des vues super sympas, quoi.
Ouais, je pense que c'est toute personne qui a de l'Azure AD, je dirais, là dans l'occurrence, probablement premium. Parce
Je pense qu'il faut du premium.
C'est le meilleur, le premium, donc c'est super. qui a du premium devrait avoir ce type de dashboard et les utiliser, quitte à avoir un bel écran tactile de type Surface Hub, non, dans un coin de la DSI, hein,
ouais,
pour pouvoir rapidement effectivement manipuler ce genre de data.
Par contre, je sais pas s'il faut une licence Power BI aussi. Je pense que oui maintenant, avec les nouvelles annonces. Ou est-ce que ça fonctionne avec la version gratuite? Ça, j'ai pas testé.
Je vais pas te cacher que je suis pas un spécialiste de la
licence. Moi non plus.
Power BI, hein.
Loin de là.
Ok.
Ouais, je crois qu'on a été bien riche là.
Ah bah, on a fait le tour.
Je pense, je pense qu'on a été un petit peu prolixe. Donc on va penser à tous nos amis IT qui sont en train de galérer avec les infections actuelles. Et puis on va souhaiter un bon week-end sinon à ceux qui peuvent.
C'est ça, bonne restauration aux IT du coup.
Oui, c'est ça. Bon, patchez-vous bien, restaurez bien vos environnements, le cas échéant. Et puis bon week-end, et puis à très bientôt. Salut Stan et merci.
Merci à toi Stan.
Au revoir. Merci.
Salut Maxime.
À bientôt.